Pour beaucoup, le mois de juin rime avec soleil, l'été, la fête de la musique ou encore l'approche des vacances. Et pour d'autres, l'été rime aussi avec fierté en ce mois de juin. De nombreux événements sont prévus autour des personnes LGBTQIA+, lesbiennes, gays, bisexuelles et personnes trans ou plus largement queer se réunissent lors de marches pour faire se sentir vivants, entourés ou pour justement faire avancer leurs droits. En 2023, les agressions se sont malheureusement accentuées envers les personnes LGBT et l'association SOS Homophobie a publié son rapport annuel et il est plutôt alarmant. On en discute avec leurs membres, notamment avec Mickaël Gérard de Pal, délégué SOS Homophobie en Auvergne. Bonjour.
Et bonjour.
Et nous avons aussi Nathalie, bénévole chez SOS Homophobie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RVA pour parler de sujets ô combien importants que, bien sûr, la cause des personnes LGBT. Est-ce que déjà vous pourriez vous présenter un petit peu l'association SOS Homophobie en Auvergne? Quand est-ce qu'elle a été créée et quel est son but?
Oui, bien sûr. SOS Homophobie, la délégation Auvergne, existe maintenant depuis 2019. Elle émane en fait d'une structure associative qui existait déjà, qui faisait déjà beaucoup d'actions depuis une dizaine d'années. Et pour laquelle on a voulu donner plus de visibilité en se raccrochant à une structure nationale qui a pignon sur rue et qui est la plus grosse association de militance pour les personnes LGBT en France, donc SOS Homophobie.
Alors, il y a beaucoup d'associations, évidemment, sur Clermont-Ferrand, on va peut-être pas toutes les présenter, mais c'était important aussi d'avoir une association qui est représentée au niveau national à Clermont-Ferrand.
Ouais, évidemment, ça nous aide beaucoup en nous donnant des moyens, en nous donnant des outils également. Mais c'est surtout que ça nous donne pignon sur rue, ça nous donne une reconnaissance et c'est plus facile aussi pour agir tous les jours et en particulier sur nos actions dans les établissements scolaires. Mmh. C'est beaucoup plus facile grâce à notre agrément national de pouvoir faire nos interventions.
Bien sûr, alors ces interventions justement, elles sont encadrées par l'éducation nationale, j'imagine?
Oui, tout à fait, on a une convention avec le ministère qui est reconduite toutes les 3 ans pour lesquelles effectivement on doit déposer un dossier très calibré avec nos techniques d'intervention, nos outils, les formations que nos adhérents suivent pour intervenir, de manière à ce que l'on rentre bien dans le cadre des missions de l'éducation nationale.
Dans les interventions aussi que vous faites dans l'école, vous allez aussi dans des écoles qui ne sont pas de la métropole clermontoise, vous essayez d'aller dans la ruralité aussi pour justement essayer de changer les mentalités
Carrément, même notre cible principale, c'est vraiment les campagnes. Alors, ça fait un peu dur à dire comme ça, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, on se sent beaucoup plus utile quand on va dans un petit collège ou dans un lycée du fin fond des Combrailles ou de l'Allier que quand on fait un gros lycée clermontois plutôt open. Mmh. Voilà. Là aujourd'hui la cible pour nous c'est d'essayer de travailler sur le Cantal avec un secteur géographique qui est un peu compliqué d'accès parce que quand on fait des interventions c'est sur une journée entière, ça nous demande une mobilisation des équipes, de se lever tôt, c'est normal, mais il faut aller dans ces établissements qui sont reculés et on souhaiterait l'année prochaine vraiment aller vraiment sur ce département.
Okay. Ça se passe comment concrètement, enfin, si on peut donner quelques exemples peut-être dans l'intervention, comment ça se passe? Qu'est-ce qui peut être traité
Ouais, les interventions sont toutes différentes, okay. Mais elles ont toutes un déroulé un petit peu commun. Notre objectif pour nos bénévoles, c'est de faire parler les jeunes, tout bêtement. On lance pas les sujets comme ça pour les faire parler. C'est un peu difficile, surtout quand ils sont plus jeunes en collège, par exemple. Bien donc, sûr. On travaille avec des petits outils qui vont nous permettre de lancer la discussion et de les faire, parler d'eux-mêmes et se confronter entre eux.
Bien sûr. Alors Nathalie, vous êtes bénévole chez SOS Homophobie depuis combien de temps?
Je suis arrivée en novembre.
D'accord.
Donc c'est très récent. Mm-hmm. Et je commence à regarder un petit peu ce qui se passe.
Sure. Qu'est-ce qui vous a poussé peut-être à vous engager au sein de l'association au début?
Un appel que j'ai entendu pour que les alliés se mobilisent.
Mm-hmm. D'accord.
Et j'ai trouvé que c'était effectivement très important que les alliés se mobilisent et rejoignent les associations.
Donc précisons, les alliés, les personnes qui ne sont pas forcément LGBT,
voilà, les personnes... moi, je suis maman.
D'accord.
D'un jeune adulte maintenant queer. Mmh. Et je me suis dit que j'étais aussi concernée, indirectement, mais que j'étais aussi concernée par les droits. Et le respect.
Mmh. Oui, donc
et le droit au respect.
Bien sûr. Et ça touchait directement votre famille. Donc forcément...
Voilà, ça touche directement la famille. Et petit à petit, on se rend compte que, bah dernièrement, j'ai lu qu'il y avait 10% de la population LGBTQIA+, et que ça faisait 30% avec l'entourage. Et du coup, c'est beaucoup.
Bah, c'est pas mal, en effet, hein, ça fait pas mal de monde. La famille, justement, elle est aussi au cœur, pour faire une petite transition, au cœur du rapport, évidemment, annuel de SOS Homophobie. Les signalements auprès de l'association sont en hausse, on peut le dire, et le nombre d'agressions homophobes aussi, on l'imagine forcément par conséquence.
Oui, effectivement. Alors les agressions homophobes, elles peuvent être de tout type. Elles peuvent être physiques, c'est ce qu'on va rencontrer beaucoup à l'encontre des hommes gays, mais elles peuvent être aussi psychologiques. Et dans le cadre de la famille, comme vous l'évoquez, c'est aussi ce que subissent les femmes lesbiennes dans leur entourage proche, par leurs parents par exemple, avec de la pression. Etc. Après, les agressions peuvent être de tout type. Ça peut être une discrimination dans le cadre du travail. Ça peut être des agressions sur les réseaux sociaux. C'est un des points qui est très mis en avant dans notre rapport cette année, où les réseaux sociaux prennent quasiment 25% des déclarations de cas sur notre rapport, ce qui est en très forte augmentation, et en particulier envers les personnes trans.
Oui, justement, les personnes trans reviennent assez lourdement, malheureusement, dans le rapport. Elles ont été la cible assez véhémente ce début d'année. Ça s'est vraiment remarqué, en tout cas, on va dire, ces derniers mois.
Oui, oui, évidemment. Alors, le rapport basé sur les chiffres de l'année dernière. Néanmoins, on sait que l'actualité de ces six premiers mois ne va pas dans le bon sens pour les personnes trans. Mm-hmm. Je pense au projet de loi qui aura un encadrement encore plus sévère, j'ai envie de dire, des transitions, ou en tout cas des parcours pour les jeunes personnes trans. Et ça ne va pas dans le bon sens non plus dans la banalisation du discours, justement sur une sorte de non-normalisation de ces personnes-là aussi. Voilà. Bien sûr.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette recrudescence justement des signalements et donc potentiellement des agressions aujourd'hui,
hein ? Alors, il y a certainement plusieurs facteurs, mais un des facteurs qui est très clair aujourd'hui, c'est la visibilité, qui fait que plus les personnes sont visibles, plus elles sont forcément... la cible de ces discriminations, de ces violences, et donc par définition vont le déclarer aussi plus facilement, puisque même si le terme n'est pas le meilleur choisi, elles assument plus aussi, elles sont plus présentes sur la place publique.
Bien sûr. Alors Nathalie, vous en tant que maman, qui avez accompagné en tout cas l'un de vos enfants dans ce parcours voilà, d'acceptation d'être une personne LGBT, qu'est-ce que ça vous fait de voir que voilà, dans certaines familles, en tout cas ça ne se passe pas aussi bien en tout cas que dans d'autres
Je ne comprends pas.
Oui.
Je ne comprends pas en tant que maman comment on peut rejeter son enfant. Ce qui prime, c'est l'amour. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est aux parents de faire le travail sur eux, le travail d'acceptation dans l'inconditionnel de l'enfant. C'est l'enfant, il n'est pas là pour être le reflet de ce qu'on souhaite. Et justement, il va nous apporter beaucoup dans notre acceptation, dans notre cheminement personnel.
Bien sûr, même en tant que parent, j'imagine que ça vous fait évoluer.
Oui, oui, en tant que parent, moi, ça m'a vraiment fait évoluer et avoir aussi une recherche qui me permette de développer une relation qui soit au top avec avec mon enfant un petit peu différent et dans la famille, même avec son frère. Ça a fait évoluer avec sa grand-mère.
Ouais, même les anciennes générations, ça s'est aussi bien passé de votre côté
Alors, au niveau des grands-mères, ça a été. Au niveau des grands-pères, je pense que d'un des grands-pères, je pense qu'il ne dirait pas la même chose.
D'accord. Il y a peut-être un gap là-dessus.
Il y avait un cap, mais bon...
Et encore, c'est un cap qu'on commence à voir un peu changé. Il y a des fois des grands-parents qui acceptent beaucoup plus l'homosexualité ou la transidentité de leurs petits-enfants. Alors, je ne sais pas s'il faut dire étonnamment, mais en tout cas, c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau. Ou en tout cas, qu'on voit plus.
Bien sûr, ouais. Tout à fait. Pour revenir peut-être sur la situation, en tout cas que vous décrivez dans le rapport, au niveau local, comment est-ce que ça se passe au niveau de peut-être d'une grande ville comme Clermont-Ferrand ou en Auvergne plus largement, est-ce que Clermont c'est une ville safe ou pas, ou est-ce que c'est un entre-deux?
Alors, notre rapport, il est basé sur des cas qui nous sont déclarés et non pas sur une exhaustivité de cas et de problématiques. Donc, la seule vision qu'on a sur Clermont-Ferrand aujourd'hui, c'est une vision pas très objective, mais qui est de se dire quand même que dans la globalité, ça se passe plutôt bien. Mmh. On est dans un environnement plutôt étudiant, plutôt open. Malgré tout, il y a des agressions qui sont présentes, qui peuvent être des agressions de rue, des regards, qui peuvent aller jusqu'à de l'extrême. On a vécu récemment sur Clermont un guet-apens d'un jeune homme gay qui malheureusement a fini par son décès suite à ce guet-apens dans un appartement. Mmh. C'est passé un petit peu sous silence, mais ça existe. Un deuxième cas nous a été remonté assez récemment sur les réseaux sociaux, sur notre Instagram. Mmh. On n'a pas pu encore aller plus loin dans la recherche de cette personne-là, en tout cas dans son contact, mais ça existe. Donc de manière globale, oui, l'Auvergne est plutôt safe, mais comme partout, malheureusement, on va avoir des cas isolés d'agression.
Qu'est-ce qu'il faudrait dire du coup aux personnes LGBT? Vivez bien sûr libre et publiquement, mais quand même un petit peu soyez attentifs, on va dire, faites attention à vous.
Ouais, l'adage de l'époque qui disait vivons cachés, vivons heureux, je pense qu'il ne faut plus l'appliquer maintenant, très clairement, c'est vivons libre, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, mais soyons prudents, et j'ai envie de dire soyons prudents comme n'importe qui dans la rue, n'importe qui peut être agressé pour X ou Y raison, on ne plaît pas à quelqu'un, on a fait quelque chose qui déplaît. Voilà, mais il faut pas, à mon avis, se contraindre. Il faut vivre. C'est vraiment ça, et être prudent.
Bien sûr, et vivre aussi aux côtés d'alliés comme vous, Nathalie, j'imagine.
Oui, certainement.
Je crois que les alliés sont les personnes qui permettent aussi à ce qu'on se sente safe dans la rue, dans nos familles, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul, on a des personnes qui n'ont aucun intérêt à nous défendre, mais qui vont le faire. Et c'est aussi très important de les avoir. Sur la délégation Auvergne, on a la chance d'avoir beaucoup d'alliés par rapport peut-être à d'autres délégations. Et c'est aussi une très grande force d'avoir cette vision-là qui n'est pas forcément qu'une vision purement interne, en fait.
Moi, c'est un peu ce qui m'a décidé aussi à m'engager, d'être alliée et d'aller accompagner aussi la communauté et de dire, vous n'êtes pas tout seul.
Finalement,
vous n'êtes pas tout seul. On est nombreux à vous respecter et il faut qu'on se montre.
Et montrer,
parce que ça fait une plus grande population, en fait.
Et montrer aussi que l'homophobie, quelque part, elle n'est pas marginale, mais disons qu'elle est peut-être moins importante que celle qu'on voudrait voir, en tout cas.
Oui, mais elle existe.
Bien sûr, bien sûr.
Et malgré tout, c'est un petit peu ce qu'on dit. Le jour béni où notre association n'aura plus lieu d'être, malheureusement, n'est pas encore venu.
À lutter contre ces délits, finalement, on peut le dire.
Oui, contre ces délits, ces agressions et voilà, toutes ces preuves ou tous ces manques de respect.
Mmh. Il faut le rappeler, en tout cas, l'homophobie, la transphobie, ce sont aujourd'hui des délits passibles, en tout cas, de condamnation à la justice. Hein. Il faut aussi le rappeler, certains semblent l'oublier, en tout cas.
Exactement. Pour tout type de délit, que ce soit de l'injure publique, que ce soit de l'agression physique, de la discrimination dans le monde du travail, il y a effectivement une peine qui peut être appliquée.
On sent aussi dans le rapport qu'il y a un accent sur l'inaction du gouvernement, quelque part, malgré la présence d'un Premier ministre ouvertement homosexuel. Est-ce que ça aussi, c'est un peu ce qui pourrait vous choquer aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a un allié directement au plus haut sommet du pouvoir et il se passe pas plus de choses qu'avant, quoi.
Alors évidemment, l'annonce de l'arrivée de Gabriel Attal en tant que Premier ministre était plutôt intéressante sur le papier au départ. Néanmoins, aucune action, aucune politique ambitieuse n'a été mise en place vraiment par ce Premier ministre ni par son gouvernement sur la lutte contre le LGBT-phobie, voire même à l'inverse, la nomination d'un certain nombre de ces membres du gouvernement qui sont clairement anti-égalité contrebalance complètement sa position personnelle, en tout cas son état personnel. Donc, oui, clairement, il ne se passe rien et on va même complètement dans le sens inverse.
Pour terminer sur une note plus positive et locale, vous avez, je crois, un projet de city tour pour mettre en avant, en tout cas, des lieux, notamment à Clermont-Ferrand, des lieux de Clermont-Ferrand qui seraient, en tout cas, LGBT-friendly ou en tout cas, qui seraient marqueurs de la communauté queer ici en Auvergne. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, même si c'est au stade de projet tout de suite, hein?
Oui, c'est vraiment au stade de projet. On ébauche les premières idées. En gros, c'est de faire un circuit dans la ville, peut-être sous la forme un peu d'un escape game, de choses comme ça, pour faire connaître les grandes dates, les personnalités, les droits, les délits aussi. En fait, on veut faire quelque chose d'assez large, de visible, et ça se met en place. Tranquillement.
Bien sûr, petit à petit, voilà, pas de pression.
La mairie de Clermont nous accompagne beaucoup sur ce projet-là, puisque c'est un partenaire allié, très clairement, depuis d'ailleurs de plusieurs années. Ils vont nous mettre à disposition des moyens, du mobilier urbain, c'est vraiment un triptyque culture LGBT, militantisme local et découverte de la ville de Clermont. Et c'est un petit peu ça qui va, on va dire, jalonner notre réflexion sur l'année qui arrive, en espérant pouvoir l'inaugurer peut-être pour le 17 mai de l'année prochaine.
Deux autres petites questions, on va dire, un peu plus volcaniques, voilà, un peu plus rapidement posées et rapidement répondues. Votre personne queer préférée, est-ce que vous en avez une, en tout cas au sens mondial, hein, vraiment pas forcément sur Clermont, mais est-ce qu'il y en a une qui vous vient en tête?
Moi, je suis clairement fan de Paloma.
Ah oui, très bien. Bien sûr, drag queen clermontoise qui a remporté première saison de Drag Race France, oui.
Oui, et aussi de Hugo,
oui,
derrière d'accord. Paloma.
Bien sûr, Hugo Bardon.
Qui porte Paloma et que je trouve que c'est une personne qui est vraiment formidable, qui a vraiment pris son rôle au sérieux et qui a apporté quelque chose.
Mickaël, vous, une figure
Alors, moi, je vais rester dans le monde, effectivement, des drag queens, mais je vais repartir un peu plus international. Et je pense que RuPaul, aujourd'hui, qui est donc la mère de toutes les drag queens, je pense... en tout cas actuelle, a lancé cette vague qui existe depuis des années et qui, je pense, est un très bon moyen de visibilité aujourd'hui. Je sais que la scène drag clermontoise est de plus en plus grande, diversifiée. Notre collaboration, entre autres, avec la House of Morningstar nous permet de travailler avec un public qui est différent de celui que l'on travaille habituellement. Ce mode de communication, ce mode d'échange qu'ont les drags est vraiment très intéressant. Je le compare souvent aux sœurs de la perpétuelle indulgence qui étaient dans une visibilité extrême, dans un visuel extrême et qui étaient là pour déranger. Bah, les drags sont un peu là aussi pour ça, dans un autre modèle, peut-être plus biotique, peut-être plus, on va dire, culturel. Mais c'est aussi un autre moyen de militer et la militance derrière les drag queens est très présente.
Ouais. Bien sûr. Au-delà du divertissement, bien sûr, il y a un message derrière très important.
Exactement.
Au-delà de Paloma, est-ce qu'il y a d'autres figures, peut-être, je ne sais pas, historiques ou je ne sais pas, mais passées de l'Auvergne qui sont queer? Est-ce que ça existe?
Il y a des figures très militantes qui malheureusement sont disparues depuis. Je pense à notre consoeur Agnès de l'association Aide qui travaillait depuis des dizaines d'années localement sur ces thématiques-là. On sait que le VIH et le public homosexuel malheureusement ont une histoire commune. Et pour moi, Agnès en faisait partie. Et en fait toujours partie. Et puis après, il y a aussi un certain nombre de lieux et de personnalités d'anciennes dragues et de personnes locales dont les noms même m'échappent, qui ont aussi été les premiers lieux où les personnes homosexuelles de Clermont pouvaient sortir un peu cachées, mais dans des lieux quand même safe. Dès les années 80, je pense que c'était aussi important de penser à ces lieux-là et à ces personnes-là.
Et peut-être que le City Tour les mettra en avant prochainement.
Oui, on va vraiment se rapprocher de les personnes qu'on peut mettre en avant et en valeur dans ce qu'elles ont pu apporter pour la communauté.
Mmh. On va terminer peut-être sur les rendez-vous, les événements à ne pas manquer, en tout cas au mois de juin, il va y en avoir. Déjà le 1er juin, la marche des fiertés, bien sûr, à Clermont-Ferrand.
Ouais, totalement. Donc organisé avec le collectif Outrecuidance, la House of Morningstar et les SOS Homophobie. Le parcours démarre à 14h le 1er juin à partir de Jardin Lecoq et reviendra au Jardin Lecoq, sera jalonné par quelques arrêts militants, de discours et surtout une ambiance festive, de visibilité, de fierté. On invite évidemment tout le monde à nous rejoindre sur cette date. Mmh. On va essayer de faire de ce moment un moment safe et vraiment joyeux. Mmh. Voilà.
Mais il n'y aura pas que Clermont, en tout cas, qui sera en marche durant le mois de juin.
Exactement. Sur l'Auvergne, on a la chance d'avoir une Pride à Aurillac et à Moulins le même jour, le 22 juin prochain. Il va falloir faire un choix entre l'Allier et le Cantal. et une seconde Pride de nuit à Clermont-Ferrand est organisée également le 14 juin à partir de 20h, à partir de la place de Lille. Voilà, un autre mode de marche, un autre modèle de Pride également, mais qui a son intérêt évident.
Et puis on peut l'annoncer aussi, au Ciné-Jaude, il va y avoir un festival queer LGBT à partir du 12 juin avec différents films justement pour montrer les différents aspects de la communauté LGBTQIA+. Donc là aussi, ce sera un moment de réunion et j'imagine de découverte pour beaucoup d'alliés et futurs alliés, je l'imagine.
Très clairement, ouais, la programmation en plus de ça est très intéressante puisqu'elle est ultra diversifiée. Le ciné Pathé a fait un gros travail là-dessus et on les remercie d'ailleurs de cet investissement sur nos thématiques.
Donc voilà, donc il y aura plein de choses à découvrir du coup au niveau du mois de juin, voilà, pour pouvoir se retrouver autour des fiertés. Merci beaucoup, Mickaël et Nathalie, d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Merci. De l'invitation.
On te rappelle que vous êtes bénévole et délégué à l'association SOS Homophobie. Très bonne journée à vous.